La France bouge, c'est jusqu'à 14h, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Sauver quelqu'un, réanimer une personne en arrêt cardiaque, on devrait tous pouvoir sauver des vies. Elisabeth, il existe une solution, elle s'appelle Save Life.
Oui, parce qu'une minute sans massage cardiaque, ce sont 10% de survie en moins. Et les secours mettent en moyenne 13 minutes pour arriver sur le lieu. Il faut donc des citoyens pour prendre le relais. Une application existe, elle s'appelle Save Life, sauver une vie. Chaque minute est vraiment déterminante. Quand on peut bénéficier d'un massage dans les 3 minutes, le taux de survie est supérieur à 70%. Bonjour Lionel Lameau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste du SAMU de Paris et créateur de l'application Save Life. Comment ça marche Save Life une fois que je l'ai téléchargée dans mon téléphone ?
Très simple. Vous la téléchargez, c'est complètement gratuit. Vous acceptez par contre la géolocalisation en permanence. C'est un
essentiel,
point qui est fondamental.
Bien sûr.
Autrement, on ne peut pas savoir où vous êtes pour aider. Ça va se passer très simplement. Nous, le 15, au SAMU, nous allons recevoir un appel. On va identifier qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque et envoyer les secours traditionnels, pompiers, SAMU. On ne remplace absolument pas les secours professionnels. Il faut être très clair sur ce point-là.
C'est le moment d'attente.
C'est ce moment d'attente avant qu'ils arrivent. On va déclencher l'application. Si vous êtes à proximité, à 10 minutes à pied, vous recevrez un SMS ou une notification pour vous demander « êtes-vous disponible ?». Si vous l'êtes, vous validez et un GPS va vous guider et les secours vont suivre votre progression et vont pouvoir vous appeler et même faire une visioconférence si besoin pour vous aider à réaliser les gestes qui sauvent, ce qui nous permet de prendre aussi des gens non formés.
C'est ça, je ne suis pas obligée de connaître déjà ces gestes ?
Ah, c'est mieux, bien évidemment,
bien sûr,
je vous engage à aller vous former.
Évidemment, il le faudrait
maintenant,
pour tout le monde.
Si vous n'êtes pas formé, vous pouvez aider à sauver une vie. On a plusieurs exemples comme ça qui ont aidé à sauver une vie. Et c'est le travail des secours de vous guider au téléphone, même si vous ne savez pas le faire. Ça augmente la survie de manière significative.
Quand vous dites qu'on est proche de l'endroit où est la victime, c'est quoi ? C'est à 2 minutes à pied, c'est quoi ?
L'application sélectionne les gens qui sont géolocalisés à 10 minutes à pied.
Très bien. On est un peu en retard, non, en France, là-dessus ?
Sur la formation, on est très en retard. Sur les applications,
ça
on
arrive,
est en train de le combler.
On le voit,
on comble
nous,
le plus rapidement possible. Il y a même un engouement, je veux dire, on est sorti il y a un an et demi, aujourd'hui il y a 260 000 personnes sur l'application.
Combien ?
Ça augmente très très vite.
Et combien de vies sauvées ?
En moins d'un an et demi, on est à plus d'une cinquantaine de vies sauvées, avec la participation de Save Life et les secours bien évidemment.
Luc, notre coach.
Lionel, on peut être qu'admiratif. Par contre, j'ai essayé, vous n'êtes pas encore présent dans la Manche, en Normandie. Quel est votre rythme de
déploiement ?
De déploiement, oui.
Alors aujourd'hui, on est présent dans la Manche. Toute la Normandie est couverte maintenant.
Ah, ça y est, alors c'est récent. Hein.
C'est plutôt récent. On ouvre à peu près 2 SAMU, 2 départements par mois en moyenne. C'est pour des contraintes financières. On est une association loi 1901 et donc on dépend des mécénats et du don. Donc d'ailleurs, je remercie tous nos donateurs. Mais c'est notre contrainte, elle est financière aujourd'hui pour ouvrir toute la France entière.
Et puis, il y a une suite en cours pour Save Life. Je crois qu'il s'agit d'un scooter pour sauver des vies.
On est en train de développer un scooter qui est prêt maintenant pour amener le défibrillateur encore plus vite sur place. On a ce citoyen qui va arriver pour faire le massage cardiaque, peut-être trouver un défibrillateur de proximité. Si besoin, amener un défibrillateur comme ça peut exister à New York ou en Israël. Ils ont développé ces systèmes-là. On a les moyens de le faire. Aujourd'hui, on n'est plus sur des contraintes législatives et
ce serait avec les hôpitaux, j'imagine, avec la PHP ou autre.
Exactement, c'est vraiment dépendant du SAMU.
C'est un projet, c'est quelque chose qu'on peut espérer voir rouler dans nos villes, à quelle échéance ?
J'aurais espéré que ça soit aujourd'hui, pour être honnête.
Oui.
Tout est prêt, c'est qu'une histoire d'autorisation.
Donc un tampon sur un papier ?
Un tampon sur un papier.
Donc probablement 2020, on l'espère, on croise les doigts ?
Ah non, j'espère la semaine prochaine.
La semaine prochaine ?
Bah, on est là pour ça, non ? On espère que ça va faire bouger les choses.
On l'annoncera, Raphaël.
On l'annoncera, évidemment, oui, vous donnez des nouvelles. Ça, c'est le premier projet, vous en avez d'autres ?
Bien sûr.
Hors micro, vous nous avez dit, on est en train de travailler sur quelque chose pour les entreprises.
On est en train d'essayer de développer plein d'autres projets. On a des QR codes d'urgence et on a aussi de la formation, parce que la formation, c'est quand même la clé. Et l'enseignement à distance est probablement les MOOC qui sont en train de se développer et probablement une bonne solution aussi.
C'est génial. Et en tant qu'entreprise, je suis à votre disposition. Parce qu'on a un problème de temps pour former.
Tout à fait.
Et on devrait, d'une façon générale, la France a beaucoup de retard. On devrait tous être formés. Et après, dans la vie active, dans les entreprises, on a pas forcément le temps. Donc, s'il y a des kits, des choses, venez nous voir.
On prend tout.
Venez nous voir, on prend tout. Super. Merci.
Comment réagissent justement les SAMU ? Parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'applications. On connaît bien ici des pompiers permis de sauver qu'on a récompensé l'année dernière. Finalement, ça va dans le bon sens. Plus il y en a, mieux c'est.
Ça stimule les gens. Ça stimule tout le monde. il y a des philosophies un peu différentes. Nous, on est parti sur une philosophie que tout citoyen pouvait aider. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation pour s'inscrire.
C'est ça la différence avec les autres.
C'est une grande différence. On a pris que le fait philosophique, que le point important, c'est d'aider. Ce n'est pas le geste technique. Le geste technique, il vous est transmis par téléphone, par visio, on a des portables, on va pouvoir vous aider pour ça. Par contre, il faut que tout le monde s'entraide. Ouais, c'est ça le point
rassure,
différence.
Ça rassure de savoir qu'on peut être guidé.
Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, on a des gens non formés qui ont participé à sauver des vies.
Ça s'appelle Save Life, c'est la solution aujourd'hui. Vous nous donnez des nouvelles pour le MOOC et pour le scooter. On l'attend dès la semaine prochaine, en tout cas avant la fin du mois de septembre, dans les rues de Paris. Merci beaucoup
d'être venu
aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, on vous attend 39-21 d'ici quelques minutes. Twitter aussi, venez nous parler de votre argent. Où est-ce que vous le mettez? Dans les banques classiques ou bien dans les néobanques? C'est la France qui bouge avec vous. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge aujourd'hui. C'est d'argent que nous allons parler. Où le placez-vous? Avez-vous délaissé les banques classiques? On vous attend, Céline.
Oui, appelez-nous 39-21 pour nous le dire. C'est 50 centimes la minute. Écrivez-nous également, ça fonctionne très bien sur Twitter. @ou #Europe 1.
Eh oui, vous allez voir qu'aujourd'hui se développe ce qu'on appelle les néobanques. Il y en a de plus en plus avec de plus en plus de modèles différents. Bonjour Diane Brondel.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez fondé Xaalis, alors ça s'écrit X2ALYS, et c'est une néobanque pour les enfants, enfants entre 12 et 17 ans.
Exactement.
Racontez-moi, comment est né le projet?
Alors effectivement, le projet est vraiment à l'intersection de ma vie personnelle, donc je suis maman, j'ai deux garçons, et de ma vie professionnelle. Moi j'ai passé 10 ans dans une grande banque de la place. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, les gens voulaient des expériences de plus en plus pointues. Et donc, on traitait tous les majeurs, les voyageurs. Il y a différents types de néobanques qui ont émergé, comme vous le dites, ces dernières années. Mais il n'y avait pas d'expérience qui était pensée pour les jeunes adolescents. Alors qu'on sait, et les statistiques le démontrent, qu'à partir de 11 ans, lorsqu'on rentre en collège, on a un premier smartphone. Et donc, moi, je me suis dit, mais on va développer une néobanque pour accompagner ces ados à gérer leur argent et à devenir autonomes financièrement.
L'idée, c'était vraiment ça, hein, d'aider les jeunes ados à gérer cet argent de poche, hein, comme on dit, et ne plus avoir finalement l'argent liquide qui circule. Parce que, comme la plupart du temps, ils n'ont pas de compte en banque, forcément, on est obligé de passer par le cash.
Exactement. En fait, c'est vraiment un usage pour un peu faciliter aussi la gestion du quotidien. Ce dont on se rend compte, c'est que les parents ne donnent pas nécessairement des cartes à des ados parce qu'ils n'arrivent pas à piloter et à suivre l'usage et l'utilisation qu'ils en font. Et donc nous, on s'est dit, très bien, on va développer une application mobile avec un compte et une carte. Mais la spécificité de notre modèle, c'est que c'est le parent qui garde le contrôle parce que ça reste quand même des enfants, ça reste des mineurs. Et donc, les parents peuvent alimenter le compte, donner de l'argent à l'enfant, bloquer la carte, fixer des plafonds de dépenses de retrait. Moi, j'aime bien définir Xaalis comme un champ de liberté dont les contours sont définis par les parents.
Alors, on dit néobanque, oui, et pas banque en ligne. Ça, c'est la grande différence. C'est pas la même chose, hein, Elisabeth.
Non, c'est pas la même chose. Les deux offres sont numériques, mais une banque en ligne, elle est systématiquement adossée à une banque traditionnelle. Hein. Par exemple, BforBank, c'est une filiale du Crédit Agricole. Elle n'a pas d'agence physique. La banque en ligne s'appuie donc sur cette structure existante, normalement un peu solide, hein, au niveau financier, pour proposer une offre dématérialisée, mais de qualité équivalente. La néobanque, par exemple, N26, Revolut, Compte Nickel, c'est un établissement de paiement qui a obtenu une licence bancaire et qui se concentre sur un accès 100% mobile, c'est tout.
Alors justement, comment vous avez fait pour trouver des partenaires? C'est facile, c'est compliqué quand on a une offre bien précise comme ça, notamment sur les enfants?
Alors, plusieurs choses. Donc effectivement, comment on construit ce type d'usage? Donc il faut trouver un partenaire, un établissement de paiement. Donc on utilise un tiers de confiance qui nous met à disposition toute une infrastructure bancaire en marque blanche. Et ensuite, on se fait soi-même agréer. Donc auprès de la Banque de France, on vient présenter son projet. On explique qu'on a envie de bancariser les mineurs. Et la Banque de France nous fixe des contraintes et explique ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire.
Oui, parce que c'est plus compliqué quand on s'adresse effectivement à des mineurs. Ils ne sont pas solvables.
Non, bien sûr.
Donc il faut que les parents soient derrière.
Exactement. De toute façon, c'est vraiment une relation dans laquelle on embarque toujours le parent. Toutes les vérifications d'usage sont faites sur le parent. C'est le parent qui est signataire et titulaire du compte, mais c'est l'enfant qui est porteur des moyens de paiement qui sont à son nom.
Parce que ça va lui apprendre à gérer l'argent.
Exactement.
C'est ça l'idée.
Exactement. En fait, ça va lui apprendre à gérer l'argent en faisant plusieurs choses. Donc l'application est constituée de différents modules. Je peux faire ma liste de souhaits, Je peux faire des cagnottes au sein de l'application. J'ai des modules de tirelire, d'épargne automatisée. Mmh. Et en plus de ça, j'ai du contenu d'éducation financière. Donc, on a signé un partenariat avec un acteur public, une association.
Qui travaille avec l'éducation nationale.
Exactement, qui travaille avec l'éducation nationale, qui a un portail Internet, mais les jeunes ne vont pas sur Internet pour se documenter. Et donc, on a fait un partenariat et on devient un peu le canal de distribution mobile de leur contenu. Et donc, tout ça au sein de l'offre et surtout avec le parent qui a la possibilité de suivre en miroir et de paramétrer le compte de l'enfant.
Le coach, Luc Le Sénécal.
Je trouve que c'est une excellente idée. En plus, je me suis senti directement concerné parce que j'ai une ado de 15 ans qui rentre en seconde. Ouais. Et ce que j'ai aimé dans votre système, d'abord, c'est un bon exemple de la créativité française, donc bravo. Mais c'est au fait, c'est un but didactique un petit peu. Ça apprend, parce que quand on est ado, on sait gérer, on croit savoir gérer. Exactement. Et ça peut aussi aider les ados à gérer leurs projets personnels.
Exactement.
Combien je dois mettre d'économies sur mon argent de poche pour avoir... voilà.
Exactement.
Donc vraiment, je trouve ça super.
Merci.
Bravo.
Merci beaucoup.
Ouais, très pédagogique, effectivement. Il y en a une autre qui est en train de se lancer, je crois, dans le même esprit.
Dans le même registre, c'est Card. Elle est dans le sillage du lancement de Xalis. Elle devait sortir cet été. Elle est destinée à la génération Z. Les jeunes sont invités à s'inscrire sur une liste d'attente. Le client peut demander son ouverture de compte en quelques minutes, directement en ligne, et chaque compte est relié à une carte bancaire personnalisable.
Question, oui. Diane, est-ce qu'il y a des plafonds sur ces cartes ?
Oui, alors en plus, ce sont les parents qui fixent les plafonds. Moi, je suis vraiment dans l'ultra-personnalisation, dans le sur-mesure. On parle d'éducation financière, on parle d'argent, donc on est quand même dans une société dans laquelle l'argent reste un tabou. Donc il ne fallait en aucun cas nous substituer aux parents et avoir des positions un peu dogmatiques. Donc l'outil est vraiment hautement personnalisable. Vous prenez votre Xalis, vous allez fixer le plafond de retrait, le plafond de dépenses. Vous allez même pouvoir déterminer par univers d'achat si la carte va fonctionner dans les restaurants, dans les fast-foods, dans les boutiques de mode, pour les achats en ligne. C'est vraiment votre outil. Et vous le paramétrez de sorte à ce qu'il reflète la relation que vous voulez que votre enfant ait à l'argent.
Et le parent peut intervenir à tout moment pour éventuellement bloquer,
bien entendu,
le compte
en temps
Xalis.
Réel.
Vous êtes combien aujourd'hui chez
aujourd'hui,
Xalis?
On est 10 au total.
10 oui. Sur deux continents,
oh ouais,
on parce est... que vous êtes...
D'origine sénégalaise.
Exactement. Et il y a une partie de l'équipe qui est à Dakar.
Oui, la moitié de l'équipe est à Dakar. Donc
c'était
ça,
un choix de votre
c'était
part.
Un choix complètement assumé. Déjà, Xalis veut dire « argent ». En Wolof. Et en fait, pour moi, c'était aussi important, comme c'est ma boîte en tant qu'entrepreneur, d'avoir quelque chose qui non seulement faisait le lien entre mes identités et était cohérent. Et j'ai poussé la cohérence en disant qu'effectivement, je pouvais aussi créer de l'emploi et créer de la valeur dans mon pays d'origine, le Sénégal. Et donc, j'ai la moitié de mon équipe qui est basée à Dakar et l'autre moitié à mes côtés à La Défense.
Aujourd'hui, quel développement vous voyez à Xalis ? Est-ce qu'il y a une possibilité de descendre l'âge à partir duquel on peut mettre cet outil entre les mains des enfants ?
Alors,
ou est-ce que c'est plus compliqué ?
Alors, théoriquement, si ce n'était pas associé à un moyen de paiement, on pourrait imaginer mettre cette application à disposition à des enfants pour qu'ils apprennent et qu'ils commencent à faire des cagnottes. La limite de 12 ans, c'est que ce sont quand même des cartes de paiement de retrait international. Et donc, c'est une limite que nous a fixée aussi le régulateur pour dire pas avant 12 ans pour avoir un moyen de paiement transactionnel. Hein. Donc, ce sont des cartes qui fonctionnent dans tous les DAB, dans tous les points de vente, avec des puces NFC. On a des enfants qui partent en Malaisie, au Japon avec leurs cartes. Donc, il était très important aussi d'avoir un cadre. Mais si le régulateur accepte qu'on rajeunisse la limite, on serait ravis d'équiper des jeunes à partir de 11 ans, par exemple.
On reste ensemble et on parle néobanque aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h18.
Europe 1.
Et voilà qu'arrive aussi sur le marché la toute première néobanque agricole et citoyenne, un modèle récent qui a, là aussi, vous allez le voir, de très grandes ambitions. À tout de suite. La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré aux néobanques. Êtes-vous client de ces nouvelles banques ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous sur Twitter, @Europe1. Appelez-nous également au 3921. Oui, puis vous allez voir que les néobanques, Céline, prennent toutes les formes aujourd'hui. Et parfois, des modèles auxquels on ne s'attend pas forcément, auxquels on n'a pas pensé. Bonjour Marcel Turbo.
Bonjour Fabienne.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Turbo Céréales, une néobanque agricole et citoyenne que vous avez lancée en 2017.
On comprend elle rit parce que c'est Raphaël.
Elle s'appelle Raphaël. C'est pas grave, tout va bien.
Je vous présente Raphaël Duchemin.
Oui,
bien, c'est joli aussi. Mais...
voilà. Il est stressé. Il voulait livrer un combat avec moi. Le projet, on le comprend dès le départ, il vise d'abord à aider les agriculteurs. On est bien d'accord. À aider en fait toute la filière agricole parce que vous êtes issu du monde agricole.
Tout à fait. Moi, à l'origine, je suis agriculteur, petit-fils d'agriculteur comme beaucoup. Mais pas seulement. Donc, j'ai été négociant pendant 25 ans. Et donc, un négociant, c'est quoi? C'est fournir des semences, des engrais pour les agriculteurs pouvoir produire leur production et acheter leur récolte.
Comme votre père?
Comme mon père aussi et mon grand-père. Voilà.
Alors en 2012, en fait, pendant que vous êtes négociant, vous apercevez que finalement, il y a un vrai problème de trésorerie qui est particulier pour les agriculteurs. Pas assez de garantie, donc pas de confiance des banques et du coup, pas forcément de prêts pour acheter les matières premières.
Voilà, on voit qu'il y a une dégradation qui s'est vraiment accentuée depuis 2012 et surtout en 2016. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut agir de la trésorerie des agriculteurs.
Du coup, vous lâchez tout, ou presque, et en 2015, vous vous dites on va bâtir un nouveau modèle pour venir aider toute la filière. Ça a été compliqué, ça a été simple de trouver des partenaires qui vous ont suivi dans cette aventure?
Ah, on m'a pris pour un fou au départ. Alors, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui était dans la finance, donc ça a permis
aussi... Qui vous a rejoint ensuite.
Aussi, hein. Tout à fait, donc ça a permis aussi de bâtir. On a long travail, mais on a réussi en 2017 à créer un consortium. Donc on a permis à une vingtaine de personnes aussi, différents métiers de l'agriculture, de tester un petit peu notre solution pour arriver aujourd'hui au lancement. On veut créer un pont avec le citoyen et donc là on va lancer justement un livret d'épargne de transition.
Alors Turbo Céréales, en fait c'est, si je résume, l'opportunité offerte à tout citoyen, Elisabeth, Céline, Luc ou moi, de mettre son argent dans un livret qui va venir financer les achats de l'agriculteur.
Tout à fait, on va financer le pain de demain, comme on dit, pour les citoyens. Et les citoyens, ce qu'ils veulent aussi, c'est que leur argent soit utile. Et donc on va pouvoir montrer qu'on va aider les agriculteurs à se désendetter, à mieux vivre et produire vraiment mieux en toute transparence avec le citoyen.
Donc nous, on épargne, mais on vous permet, avec cet argent qui travaille, finalement d'acheter les fameuses semences dont vous parliez tout à l'heure.
Le cycle de production d'un agriculteur, c'est un an. Et donc, pendant un an, pour semer, pour pouvoir faire son métier, mais il vient de trésorerie, donc on va lui donner dès le début 70% de la valeur de sa récolte, dès le semis, comme ça, il va pouvoir mieux produire.
Pour que nous, citoyens, on s'engage avec la filière dans des investissements responsables, c'est ça l'idée, c'est donner du sens, véritablement?
Tout à fait. Donc on va s'appuyer sur des nouvelles technologies, mais pour montrer que l'agriculteur pardon, produit mieux grâce à l'argent du citoyen. Donc on va donner de la transparence et on va apporter justement des informations sur la transition écologique, énergétique de l'agriculteur.
Vous allez loin parce que vous avez créé aussi la crypto-monnaie, le céréal. Un céréal égale 1 euro?
Tout à fait. On a créé, afin de créer le paiement instantané dans la filière agricole, on se base sur une crypto-monnaie, le céréal, qui va permettre aussi donc de faciliter les échanges, de fluidifier et de rendre de la sécurité aussi dans la plateforme.
Luc, le coach?
Oui, j'ai deux questions. Admettons que je sois producteur de lin en Normandie, qui est quand même une des premières régions de producteurs de lin au monde. Comment vous allez me convaincre d'adhérer? Et ma deuxième question que vous pourrez répondre, quelles sont les garanties aussi que vous apportez au système? Puisque vous êtes comme une néobanque. Donc
tout à fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis à la base, je suis négociant. Donc j'ai des agréments qui me permettent, tout comme un médecin, tout comme une pharmacie, on a des agréments, on est régulé, on est 350 les avoir en France, qui me permet de pouvoir acheter dès le semis la récolte de l'agriculteur.
Donc là, vous m'achetez mon lin?
On achète la récolte, voilà, on se base sur les 5 dernières années.
Quelle base de prix?
Alors sur un prix moyen des 5 dernières années, sur 70%, comme c'est une histoire d'assurance. C'est-à-dire que l'agriculteur va être obligé de s'assurer contre des aléas climatiques. On ne veut pas prendre de risque pour le citoyen. Donc on s'assure de la récolte. Et ensuite, on va accompagner l'agriculteur pour la vente de sa récolte. Et ça nous permet d'être le tiers de confiance et de récupérer auprès de l'acheteur la somme qu'on a avancée à l'agriculteur au départ.
D'accord.
Donc on est vraiment sur un circuit où on a tout pensé pour que ça soit sécurisé pour l'épargnant.
Convaincu par la démonstration, Luc?
Oui, et en tant que citoyen, comment vous allez me convaincre, dans ce cas concret, de mettre... De l'argent dans le système, et quelle va être la rémunération? Est-ce que c'est des placements fixés sur le taux du lin ou du blé?
Donc on est indépendant des variations de cours. Oui. Donc le citoyen, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui mettre un produit d'épargne qui va être récompensé. On va le récompenser à 2%, plus derrière des dividendes qu'on va toucher de la société. Et le but aussi, c'est de lui amener pas que de l'argent, de la récompense, c'est aussi de lui amener de la visibilité sur ce que l'agriculteur a produit.
Lui expliquer,
il va pouvoir retrouver, en allant en boulangerie, il va retrouver, grâce à un petit flashcode, d'où vient la farine. Il verra sur une carte la localisation de la farine. Et ça, on a développé une blockchain avec un partenaire qui nous permet justement de retrouver l'origine de la farine est vraiment de recréer la confiance à la fois du citoyen et aussi envers son agriculteur.
Combien de clients aujourd'hui, déjà ? Combien de personnes qui travaillent aussi avec vous ?
Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes à travailler sur le projet. Mm-hmm. On lance, donc on a, depuis 2 ans, on a testé les différentes plateformes au sein d'un petit réseau fermé. Et donc là, on va lancer sur le mois de septembre le livret d'épargne. Et à partir de février, au moment du Salon de l'agriculture, on va lancer vraiment le compte citoyen et le compte pour les agriculteurs.
Elisabeth, justement, c'est pour quel public ces néobanques ?
Ces nouveaux acteurs français s'adressent à des clientèles jeunes, on le voit avec Xalis, ou à des patrons de PME. À chaque fois, c'est c'est bien ciblé. Et la vraie valeur ajoutée de ces néobanques, c'est aussi l'innovation. Il y a le canal de distribution, évidemment, mais il y a l'innovation. Cette innovation avec un maximum de fonctionnalités, ça place celui qui va l'utiliser au centre du jeu et donc il va pouvoir gérer son argent comme il l'entend.
On reste ensemble et on continue à parler néobanques aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h28.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas faire du sur-mesure ? Tiens, pour les petits patrons, tous ces indépendants qui ont du mal à trouver une oreille auprès de leurs banquiers traditionnels, c'est ce qui a notamment donné naissance à Shine. A tout de suite.
Les néobanques sont à l'honneur dans la France Bouge. Êtes-vous intéressé par ces néobanques ? Trouvez-vous que c'est une bonne alternative aux banques classiques ? Avez-vous des questions pour nos professionnels dans ce domaine ? Appelez-nous au 3921. Écrivez-nous également sur Twitter @Europe1Raphaël.
Si vous avez des indépendants dans votre cercle familial ou amical, vous les avez forcément déjà entendus se plaindre, car quand il n'y a pas de salaire régulier, c'est toujours un peu plus compliqué forcément de trouver une oreille compatissante auprès des banques. Alors Shine est né. Bonjour Nicolas Rebouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé une néobanque pour les indépendants, commerçants, artisans par exemple, ceux qui ont parfois de vrais gros problèmes de trésorerie. En quoi la néobanque vous a paru une bonne solution ?
Exactement, c'est un service qui est à destination de tous les indépendants, toutes petites entreprises, entrepreneurs, etc. Et on s'est rendu compte que c'était une cible qui était très mal servie par les offres traditionnelles.
Pourquoi ?
Les comptes sont souvent trop chers, c'est 20 euros en moyenne, parfois 30, 40 euros. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas utiles, alors que globalement, les indépendants ont absolument besoin d'accompagnement et de protection.
Le projet est né en 2016, c'est ça ?
Oui, 2017, vraiment. On a commencé.
L'idée 2016
est apparue en 2016.
Et le projet, vraiment.
L'idée
en 2017.
Est apparue justement du problème de mon associé, d'ailleurs. Quand on s'est rencontrés, il était freelance. Et il n'avait pas trop de problèmes à trouver des missions, bien se faire rémunérer, parce qu'il est développeur et c'est un métier à la mode. En revanche, il a réalisé toute la complexité administrative à laquelle sont confrontés les indépendants, et puis la solitude.
C'est-à-dire qu'il avait des marchés, il arrivait à trouver des marchés, mais il n'avait pas forcément les banques qui le suivaient quand on allait taper à la porte, qu'il fallait faire par exemple des avances de trésorerie, c'était compliqué ?
Y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il savait faire son métier, mais il s'est retrouvé du jour au lendemain, d'une certaine façon, à avoir une entreprise, alors qu'il n'avait pas du tout envie de gérer une entreprise. Il avait simplement envie de faire son métier sans être le salarié de quelqu'un, sans avoir un patron.
Donc, vous, ce que vous avez créé, c'est la possibilité de faire des comptes bancaires plus agiles, plus adaptés, aussi un peu plus sur mesure.
Exactement. On est les premiers à avoir inventé un compte pro spécifiquement pensé pour les indépendants et les entrepreneurs. Et donc, un compte pro qui les accompagne, en particulier sur la partie administrative, avec des fonctionnalités dédiées, un service client qui répond aux questions administratives des gens, toute une communauté.
Toute la paperasse, quoi.
Toute la paperasse. Tout ce qui est un peu pénible, pour être honnête. On aime bien dire qu'on s'occupe de la partie pénible de la vie des gens. Et puis, un compte qui les protège également, avec des assurances pour leur activité, pour leur matériel, pour leur personne aussi, que normalement, il faudrait souscrire séparément et qui, là, pour la première fois, sont directement inclus dans un compte pro.
Ça vous parle, je suppose, Luc ? Je vous vois,
oui,
je vous vois écouter
ça va,
avec beaucoup
j'essaie
d'intérêt.
De bien comprendre, parce que bon, il faut quand même réaliser que les banques ont fait aussi beaucoup d'efforts. Prenons un cas concret. Je suis commerçant, indépendant, j'ai une boutique de vêtements. Qu'est-ce que vous apportez
total
de plus
hasard,
c'est quand même pas total hasard. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Parce que c'est quand même pas vous qui allez vous substituer. Il y a la TVA à régler, il y a tout ça, mais... qu'est-ce que vous apportez de plus, concrètement ?
Par rapport à une banque classique.
Une banque classique, oui.
Très concrètement, et de manière très précise, quand on doit faire une facture pour la première fois, on ne sait pas quelle mention légale il faut mettre sur sa facture. Alors, il faut aller chercher sur Internet, qu'est-ce que je dois écrire, quel modèle utiliser, etc. On doit récolter tous ces justificatifs. On les perd un peu dans la nature, à gauche, à droite, ou alors on les donne à son comptable à la fin du mois dans une boîte à chaussures.
Oui.
Nous, on automatise tout ça, on le numérise, on le met dans l'application. On permet aux gens de l'envoyer à leur expert comptable s'ils ont besoin. Avant même tout ça, quand on veut se lancer,
vous êtes un super gestionnaire,
il faut choisir
en fait,
un statut.
En plus d'être
on
un
est
banquier.
Une sorte de copilote, si vous voulez. On laisse les gens faire leur métier et en revanche, on les accompagne sur toute la partie qui n'est pas leur cœur de métier. Et ça s'adresse vraiment à des gens qui sont soit qui se lancent, soit qui sont tout seuls, des artisans, comme vous disiez, des commerçants, des coachs personnels, des freelances, des consultants qui servent des entreprises, etc. Tous ces gens qui ont un métier, qui ont envie de le faire sans avoir un patron, pour plein de raisons différentes, et qui ne veulent pas gérer toute la partie pénible.
Ouais, et vous gérez le découvert ?
Non, c'est une des particularités des néobanques. On va essayer de le faire en partenariat avec, avec des établissements de crédit. Aujourd'hui, en fait, un compte Shine, ça fonctionne totalement comme un compte traditionnel. On a une carte bancaire dédiée, on peut faire des virements, on a un IBAN, un RIB. Il y a plein de choses en plus, les factures, etc. Les deux seules différences, c'est qu'on ne peut pas encaisser d'argent liquide et qu'on ne peut pas être à découvert.
Donc, néobanque avec une spécificité sur les entrepreneurs. Il y en a d'autres hein, qui ont suivi un petit peu le même modèle, Elisabeth.
Oui, en fait, chaque banque, j'ai l'impression que avec ces néobanques, chaque banque a sa cible. Donc, par exemple, pour une banque dédiée aux entrepreneurs, vous avez Conto, Q-O-N-T-O, pour simplifier la vie des entrepreneurs. Elle existe depuis 2 ans. Elle permet l'ouverture d'un compte professionnel, mais aussi on peut déposer son capital, commander ses cartes, détection de la TVA sur les factures, les tableaux de bord pour piloter la trésorerie, simplification de la comptabilité avec un service client disponible 6 jours sur 7, un délai de réponse 15 minutes. Donc là aussi, on est dans le service personnalisé pour l'entrepreneur.
Aujourd'hui, Nicolas Rebout, avec Shine, vous voulez muscler le dispositif, si j'ose dire ?
Muscler le dispositif.
Vous voulez aller plus loin, justement, dans les offres que vous faites à votre public ?
Bien sûr. D'une part, en termes de cible, aujourd'hui, on a déjà 50 000 clients, après un peu plus d'un an d'existence, donc c'est très bien. Mais il y a 3 millions d'indépendants en France, il y en a 20 millions en Europe, donc la route est encore longue avant d'avoir... d'avoir vraiment touché tous les gens qui pourraient bénéficier du service. Et en termes de fonctionnalités, oui, on veut encore aller vers plus d'accompagnement et plus de protection. Et donc, ça veut dire plus d'automatisation dans les services administratifs pour plus de statuts.
Et intégrer
et plus
les
d'assurance.
Assurances.
Oui, encore plus.
Vous pourriez peut-être.
On reste ensemble. On pose les questions tout à l'heure. Vous restez avec nous. On parle néobanque aujourd'hui.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on vous attend 39-21 et Twitter. C'est la France qui bouge. À tout de suite. Europe 1.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin. Le dossier du jour, ce sont les néobanques, Raphaël.
Avec Diana Brondel, PDG et fondatrice de Xaalis, néobanque pour les enfants de 12 à 17 ans. Avec Marcel Turbo, PDG et cofondateur de Turbo Céréales, néobanque agricole et citoyenne. Et Shine, néobanque pour les indépendants, qui est aussi un copilote administratif que vous dirigez, Nicolas Rebout. On va tout de suite aller voir dans la rue, tiens, ce qu'en pensent les gens de ces néobanques. C'est au micro de Laetitia Farine.
Je m'appelle Théo, j'ai 34 ans. Ouais, je trouve que c'est une bonne chose pour le côté pratique. Le revers, c'est que quand on a un problème un peu plus gros, pour pouvoir par exemple négocier une autorisation de découvert un peu plus importante, négocier un prêt, faire ça que par Internet, c'est un petit peu pénible. Moi, j'aime bien aussi pouvoir me déplacer dans une agence et parler physiquement avec une personne.
Alors, il y en a encore qui préfèrent l'aspect traditionnel et qui confondent néobanque et banque en ligne. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Diane.
Non, tout à fait. En fait, c'est vrai que... après, c'est complexe, hein, déjà, faire la différence entre une banque en ligne, une néobanque. Comme le disait Nicolas, à juste titre, en plus, on ne peut pas tous offrir le même type de prestations et de paiement. Donc, je pense que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail de pédagogie à faire pour continuer à expliquer quelles sont les propositions de valeur qui sont les nôtres et en quoi on se différencie. Un des éléments clés, en tout cas, que je vois de différent entre les néobanques et les banques traditionnelles et voir les banques en ligne, c'est que nous, dans nos néobanques, tout est en réel. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les banques traditionnelles.
On a une question sur Twitter, je crois, Céline.
Oui, une question de Marc qui dit « Je travaille actuellement dans une banque traditionnelle. Dois-je craindre à terme pour mon emploi ?»
Ah, bonne question. Est-ce qu'il y a une concurrence frontale, j'ai envie de dire, entre les néobanques et les banques traditionnelles, Nicolas ?
Aujourd'hui, on peut utiliser un compte comme un compte Shine, par exemple, soit en remplacement, soit en complément d'un compte traditionnel. Et je reviens sur ce que vous disiez juste avant, c'est vrai que le contact humain est très important et c'est l'un de nos c'est ce sur quoi on se concentre le plus au quotidien. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir une réponse en une heure complète, sympathique par écrit, que d'avoir un rendez-vous pendant 15 jours avec un conseiller qui peut avoir changé de plusieurs fois en 6 mois, etc. Et on a une équipe qui est à Paris, qui travaille à plein temps là-dessus, qui fait un boulot formidable. Je les remercie d'ailleurs, parce que si aujourd'hui on a des taux de satisfaction aussi élevés, on est la néobanque pro la mieux notée sur l'App Store, le Play Store, Trustpilot, tous les indicateurs objectifs de satisfaction des clients. On a des résultats records. Et c'est aussi parce qu'il y a des gens tous les jours qui répondent avec
amour. Ça, c'est possible parce que vous avez aujourd'hui 50 000 utilisateurs. Est-ce qu'on peut comparer réellement une néobanque avec 50 000 utilisateurs et une banque classique avec des millions de personnes? Le service est forcément un peu plus sur mesure.
C'est aussi une question de philosophie. On a fait un choix qui n'a pas été facile de dire... On ne prend pas les appels téléphoniques de nos clients quand ils ont un problème. On préfère répondre par écrit parce qu'on préfère prendre une heure pour faire les recherches nécessaires et apporter une réponse complète aux gens que de répondre au téléphone, de les laisser en attente 10 minutes avant de répondre, ensuite de dire « attendez, il faut que je demande un autre service », etc. C'est notre vision de la qualité de service et c'est comme ça qu'on essaie de rendre nos utilisateurs heureux. En tout cas, on se donne beaucoup de mal pour que ce soit le cas.
Allez, on retourne dans la rue.
Bonjour, je m'appelle Elia Khan, j'ai 22 ans. Ce qui m'intéresse dans les néobanques, ça va être déjà la facilité de communication avec ces banques, où souvent c'est beaucoup plus rapide qu'avec les systèmes bancaires classiques. Ensuite, on a beaucoup moins de frais en général, surtout au niveau de l'international, donc c'est plutôt avantageux pour les jeunes qui aiment voyager. Enfin, la facilité de création de compte, beaucoup plus simple tout simplement, beaucoup moins de papiers envoyés, beaucoup plus rapide dans la gestion de tout.
Marcel Turbo, ça joue en votre faveur, hein. Plus rapide, plus agile finalement, plus avec son temps, la néobanque.
Oui, sur ça, on apporte un service qui n'existe pas encore. Donc, on vient pas concurrencer la banque actuelle. On vient apporter un autre service qui, justement, apporte la sérénité, la confiance entre les citoyens et aussi, pour notre cas, les agriculteurs et la filière.
Oui, pour vous, la cohabitation est possible aujourd'hui.
Tout à fait.
Luc ?
Oui, moi, j'avais plutôt deux suggestions. Pour vous, Diana, par exemple, j'ai entendu pas mal de pubs de grandes banques quand les enfants réussissent un examen. Je crois que c'était pour le baccalauréat en fonction de la mention ou certaines banques donnaient un petit crédit. Ouais. Et ça peut être un beau moyen de promotion. Alors, ouais. pas forcément avec une somme d'argent, mais une espèce de parrainage.
Bien sûr.
Je trouve que ça encourage à aller vers vous.
Vous y pensez ?
Bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr que c'est très intéressant et ce sont des logiques qu'il faut qu'on mette en œuvre et qu'on teste en fait. On est en train de tester différentes choses. Alors sur ce point-là, c'est très intéressant. On a notamment fait ce qu'on appelle un customer voice. Donc on a passé un peu de temps avec nos premiers clients pour voir comment l'usage.
Un sondage
terrain.
Grandeur nature.
Voilà, grandeur nature. Et à un moment, on demandait aux parents et aux enfants qu'est-ce qui ferait que vous nous recommanderiez à vos proches. Et beaucoup de parents surtout nous ont dit. Nous, on est venu chez vous parce que voilà, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. On est dans une vertu pédagogique, donc j'ai pas du tout envie que vous commenciez à proposer des rémunérations en liquide voilà. À mes enfants. Mais par contre, si vous pouvez faire vivre une expérience à mon enfant, et ben là, effectivement, je serai beaucoup plus enclin. Et mon enfant sera beaucoup plus enclin à parler de vous.
Et effectivement, ce qui vous relie les uns et les autres, c'est le sens hein, derrière chacun de vos projets. Merci à tous les trois d'être venus nous parler néobanque aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h45.
Europe 1.
Restez avec nous, un peu de musique et ensuite l'Armagnac qui fait vivre leur famille depuis 8 générations. Ça va intéresser Marcel Turbo, le domaine, la belle et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et il est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, figurez-vous qu'elle va nous ramener en 1820, parce que c'est à ce moment-là qu'est né le domaine Laballe, ou presque. Bonjour Cyril Laudet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre famille produit de l'Armagnac depuis 8 générations. Je crois que c'est un certain Jean-Dominique qui a lancé le domaine, qui a lancé la production. Il est parti en fait faire commerce des épices aux Antilles. Et alors là, il s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas l'Armagnac.
Oui, c'est vrai que c'est parti de là. Jean-Dominique Laudet, donc du coup la 8e génération, est parti 20 ans aux Antilles faire du commerce d'épices, de coton. Et il est revenu donc en 1820 avec vraiment le souhait de créer ou de reprendre une exploitation en Armagnac et faire connaître l'Armagnac dans le monde.
Ouais, il l'avait écrit hein, pendant son voyage à son fils. Il lui avait dit « il faudrait que tu me trouves un domaine à reprendre ».
C'est ça. Ça a été très compliqué d'ailleurs parce qu'à l'époque, il y avait peu de propriétés à vendre. Ça appartenait à des fortunes, les propriétés étaient rentables. Et donc du coup, on ne trouvait pas une propriété comme ça. Et donc Laballe, à l'époque, quand il trouve ça, c'était 600 hectares. 120 personnes qui travaillaient là, donc c'est de la polyculture, hein, pas uniquement de l'Armagnac. Donc ça a été une vraie fourmilière.
En 1829, il va réussir quelque chose de très fort, parce qu'il a toujours cette idée de faire connaître l'Armagnac en dehors des terres françaises. Il va vendre des barriques à New York, il va les exporter.
Il envoie 200 barriques à New York, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est une première. Ça montre, il ne faut pas oublier qu'il a 60 ans. Donc il reprend la balle après sa carrière professionnelle, et avec cette envie, mais c'est un peu l'histoire de la balle d'ailleurs. Ça a toujours été géré par des retraités. Mais aujourd'hui, c'est une vraie première, c'est ce qui donne envie en fait. Il avait beaucoup d'enthousiasme.
Beaucoup d'enthousiasme, et ça n'a pas quitté les générations qui suivent, même si vous l'avez dit, c'est passé de main en main, de retraité en retraité, ce qui fait qu'on s'est peut-être un peu endormi sur ses lauriers.
Oui, c'était un peu ça en effet. C'était en effet, mais c'est légitime. Hein. On revenait à la balle aussi pour finir ses jours, entre guillemets, faire de l'Armagnac. Perpétue une tradition, c'était aussi un devoir.
Oui, parce qu'on oublie de dire que l'Armagnac, c'est la plus vieille eau-de-vie française.
Oui, c'est ça, oui. Ça a un peu plus de 700 ans maintenant.
Comment est-ce que vous arrivez dans l'aventure? Vous reprenez à votre grand-père, aussi était retraité, qui était là jusqu'à 83 ans.
Oui, il a repris à 60 ans et il a arrêté donc à 83 ans. Et j'ai repris tout doucement, moi, en 2007. En fait, c'était autant l'histoire qui m'animait, cette l'histoire de la balle, la famille, les écrits qu'on avait m'inspiraient beaucoup. Après, de là, décider d'être agriculteur, c'est encore autre chose, c'est une vocation. Même si mon père avait fait ce métier avant, tout ne me plaisait pas forcément au départ dans cette partie-là. Et donc, je me suis lancé uniquement sur 2 hectares pour apprendre à faire de l'armagnac, à travailler la vigne. Et je dirais, pendant 3 ans, j'ai travaillé avec une toute petite structure pour apprendre le métier et puis essayer de comprendre les débouchés et tout ça.
Et à l'époque, combien de barriques d'armagnac sortent encore du domaine?
Alors, quand mon grand-père, en fait, à la fin, il distillait plus que 5 barriques par an. Il faut savoir que... On montait en moyenne sur à peu près 200 barriques de produits par an. Et à la fin, voilà, on était autour de 5 barriques par an. Moi, j'ai commencé, en plus, la première année, on était gelé, donc je n'ai pas fait plus. Et aujourd'hui, j'arrive à distiller une cinquantaine, entre 50 et 100 barriques par an, en fonction des années.
Oui, parce qu'entre-temps, il s'était tourné davantage vers le vin pour faire marcher le domaine.
Hein. Et oui, ça a été une étape très importante, en effet, le vin. Parce que c'est un peu l'histoire de la Gascogne, en fait. L'Armagnac est un peu tombé aux oubliettes il y a un peu plus de 30 ans, voire 40 ans maintenant. Et le vin a, entre guillemets, sauvé la région et un paquet d'exploitations. Ouais.
Alors, il est tombé aux oubliettes, mais aujourd'hui, et vous affichez d'ailleurs la couleur, Armagnac is back, il est de retour. Comment on fait? On a envie de reboire de l'Armagnac, on a envie de redécouvrir notre patrimoine.
Moi, je pense que c'est clairement une tendance. Aujourd'hui, elle est pas clairement affichée, mais j'y crois. En tout cas, le monde du spiritueux se porte très bien. Tous les spiritueux se portent bien. On voit un peu toutes les appellations qui réussissent bien. Et l'Armagnac est un peu encore aux oubliettes. Donc, quand j'affiche ça, c'est de l'optimisme. Hein. Aujourd'hui, c'est pas du tout la réalité. Mais j'y crois parce qu'on remplit toutes les cases. On est dans l'artisanat, on a un vrai savoir-faire, on a une histoire. On a des très belles qualités, de l'originalité, et en plus, c'est local. Je veux dire.
On va voir ce qu'en dit monsieur, label de l'entreprise du patrimoine vivant.
Raphaël, vous me voyez arriver avec ma question. Une entreprise 8e génération avec un savoir-faire exemplaire, pourquoi vous n'êtes pas encore labellisé entreprise du patrimoine vivant? Ce fameux label EPV, label d'État, il faut y aller, voilà.
Oui, vous avez raison, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai repris cette exploitation. On va déjà assez vite, mais en effet, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis assez fier, l'année prochaine, ça fera donc pile 2 siècles que ma famille est à la tête de la propriété. En effet, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui.
Et j'ai vu une expérience avec une autre boisson bien connu, notre alcool, le Calvados. Et pour reconquérir cette clientèle qui s'est un petit peu éloignée, est-ce que vous envisagez de faire des concours de cocktails, etc.? Ça permet de rendre cet alcool un peu plus visible. Est-ce que vous avez envisagé?
Bien sûr, c'est clairement une cible.
Il y a un gros travail d'ailleurs sur le packaging. Hein, si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez aller voir les bouteilles d'Armagnac.
Ce qui est important dans l'Armagnac aujourd'hui, je pense que on est un peu aussi tombé aux oubliettes parce qu'on était seulement un cadeau. On offrait un millésime. On a vraiment la culture du millésime. C'est pas pour rien. C'est notre façon de distiller tout ça. On a un terroir.
4 ans avant que ça arrive à maturité, hein, précisons-le.
Oui, enfin, en l'occurrence, chez moi, j'attends 4 ans minimum. À partir d'un an, on peut avoir un Armagnac, mais chez nous, c'est 4 ans minimum, voilà, pour une question de style, de terroir, et voilà. Mais ce qui se passe, aujourd'hui, les cocktails, c'est clairement une cible intéressante. On a des coûts de production qui sont très élevés. C'est de la vigne, on a des barriques qui nous coûtent très cher, on travaille que du chêne noir gascon, donc des chênes qui viennent de chez nous. Voilà, il y a quand même toute une démarche, on ne peut pas être au prix de la plupart des autres spiritueux, en fait. Donc, c'est là un peu où ça bloque. Mais ceci dit, il y a un vrai intérêt de la part des cocktails. On va y venir petit à petit. Mais je m'aperçois que le public qui s'intéresse aujourd'hui à l'Armagnac est très jeune. Alors, les gens ont autour de 20 ans, finalement. Hein, ma génération, moi, j'ai 40 ans, c'est plutôt les whisky. Après, c'était les rhums. Mais l'Armagnac, finalement, c'est...
Moi, c'est le Calvados.
L'Armagnac est de retour grâce à la balle notamment. Moi, j'ai juste envie de vous dire, j'avais rencontré dans les Landes un producteur d'Armagnac. C'était la dernière génération. Il me disait, tu vois petite, l'Armagnac, il faut l'aimer comme une femme. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est le domaine La Balle, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Luc qui était notre coach.
Non, merci à vous.
Rendez-vous lundi, Céline
lundi.
Et Elisabeth.
À lundi, Raphaël. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 et restez là. Christophe Ondelat arrive dans un instant.